Mon intervention de ce jour va être de réfléchir à la cohérence que j'affirme dès le titre comme un postulat de cette civilisation automobile qui est effectivement désormais plus que centenaire. Je rappellerai que le salon de l'auto de Paris, qui est le premier salon au monde, on y reviendra, a 120 ans, aura 120 ans en 2018. Et donc je vais faire quelques détours pour parvenir à cela, mais me présenter rapidement également. Et finalement, je vais mettre en abîme la communication à bien des égards avec des travaux collectifs et personnels aussi, des travaux en cours, et qui finalement peuvent être définis au travers d'une analyse majeure, qui est l'analyse de ce que j'appelle la civilisation de l'automobile. Et à bien des égards, je n'abuserai pas des superpositions, évidemment, la civilisation équestre est un référentiel et un horizon évidemment très valorisant, et les travaux de Daniel Roche sont là une mine à laquelle je vais rendre hommage dans un instant. Toujours est-il que s'il s'agissait de me définir d'une image, je retiendrai celle-ci. Et celle-ci, elle est très claire, c'est le sens giratoire de la place de l'étoile, que l'on peut dater à un moment très précis pour le coup. Peut-être l'avez-vous déjà identifié. Toujours est-il que ce cliché date de 1926 ou 1926, qui évidemment laisse peu d'erreurs. Mais pourquoi puis-je être si formel? C'est parce que la photographe Germaine Krull, qui n'est pas non plus n'importe quel photographe, mais Germaine Krull photographie le premier passage clouté parisien. Mais ce passage clouté parisien, qui est protégé par une police de la circulation, par une hirondelle qui surveille la bonne tenue des automobilistes qui sont ici à l'arrêt, comme vous pouvez le constater, et aussi des piétons qui ne débordent pas, et des enfants peuvent même traverser la place de l'Étoile. La vue est plongeante depuis l'Arc de Triomphe. Mais on a là une pause du trafic qui est très révélatrice de ce que je cherche finalement à établir depuis plus de 15 ans que j'ai commencé mes recherches désormais, qui est cette civilisation de l'automobile. Qui, à bien des égards, mais on ne met pas en cause cette légitimité historique au regard du cheval, mais au regard de l'automobile qui apparaît comme un objet trivial, qualifié de bagnole et autres. Et ok, d'accord, je le prends, mais il n'y a pas que cela, vous allez le voir. Évidemment, cette civilisation, elle existe. Ce n'est pas le chaos, on en est très loin. Et la construction urbaine de cela, et toute ma recherche part finalement de la morphologie urbaine, des champs politiques qui viennent se superposer à cette gouvernance des formes et cette morphologie urbaine, à Paris pour l'automobile, elle est fondamentalement due à une réforme de l'espace public qui intervient au début du XXe siècle. Et cette réforme de l'espace public va viser à faire cette place que certains disent hégémonique, mais en réalité elle a toujours été négociée, cette place que l'automobile a finalement prise dans l'espace public, et l'endroit où peut-être ceci est le plus tangible, c'est la place de l'Étoile, où le sens giratoire est inventé par l'architecte urbaniste Eugène Hénard et mis en application en 1907. Et donc là, 20 ans plus tard, vous avez un ordre urbain très établi, très stable, très stabilisé. Et cette ville passante, cette ville que vous étudiez, cette ville des mouvements, cette ville du chaos apparent présente en réalité des régularités et présente aussi toute une sédimentation de règles qui est finalement mon objet d'étude. Des sédimentations de mode, des cohabitations et des coexistences parfois difficiles, délicates. Et là, évidemment, cette vue suggère la présence d'un tramway qui avait disparu de l'espace public parisien dans les années 30, pour de bonnes raisons. Ce tramway, là, notamment, circulait à l'encontre du sens giratoire de la place de l'Étoile, et donc perturbait naturellement, vu qu'il n'y avait pas de site propre, comme le tramway contemporain, et quand on n'y échappe pas, ce tramway était devenu une aberration urbaine. Et de surcroît, les matériels roulants n'avaient pas reçu d'investissement suffisant. Bref, cette vue figée suggère tout le dynamisme de la ville passante, et c'est finalement par cela que je définirai ces travaux, les premiers, qui étaient ceux de ma thèse de doctorat soutenue en 2002, et dans le jury il y avait déjà donc Jean-Luc Pinol, Annie Fourcault, Antoine Pro qui l'avait dirigé, Patrick Fridanson, spécialiste de l'automobilisme, Gabriel Dupuis, spécialiste de géographie, d'aménagement et d'urbanisme. Donc il y avait là une conjonction d'éléments qui tendent à prendre l'objet automobile comme un objet de civilisation, chose qui dans mes propres recherches a pris une inflexion, notamment en 2008 avec un ouvrage intitulé « Les cultures du volant », 19e-21e siècle, et dans « Les cultures du volant », je posais finalement tous les adossements que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que je prenais comme adossement historiographique, une histoire culturelle de l'objet automobile, une histoire technique, mais globalement, je ne suis pas ingénieur et il m'arrive de parler devant des publics d'ingénieurs, je suis le littéraire égaré, mais je tâche de leur démontrer que l'objet est essentiellement social, culturel, politique, éventuellement économique, et en dernier ressort qu'il est technique. Et donc je suis là véritablement à la conjonction des éléments qui font que la construction sociale de la technique devient décisive. Et donc dans ces cultures du volant, je m'étais intéressé, alors loin de cette époque réputée aujourd'hui un peu bête par rapport à l'époque intelligente, et c'est une réflexion qui est venue naturellement lorsque l'on évoque les routes communicantes et les véhicules communicants d'aujourd'hui, eh bien il y aurait l'idée que, eh bien, dans la tradition, il y a une forme de téléologie qui fait que l'intelligence est réservée au temps contemporain. Il y a là une erreur, évidemment fatale. Et pour l'historien, c'est un anachronisme, et donc ça n'aurait pas de sens. En réalité, il y a toujours eu cette optimisation, et Daniel Roche le dira mieux que moi tout à l'heure. Optimisation civilisationnelle. Et j'attire votre attention sur le fait que cet ouvrage, qui pour moi, je l'ai amené parce que je m'en servirai tout à l'heure, est une référence, eh bien, dans l'inflexion de ces études qui ont suivi et qui m'animent encore, eh bien cet ouvrage ne présentait pas d'automobile en couverture. Évidemment, l'automobile n'est finalement qu'un objet adjacent de mes recherches. C'est tout l'univers de l'automobilisme qui m'intéresse, et c'est pourquoi je ne me définis pas comme un spécialiste d'automobile, mais comme un spécialiste de l'automobilisme. Alors, j'ai eu quelques travaux sur ce sujet, qui partent de la scène restreinte parisienne, des travaux collectifs, des travaux consacrés aux Trente Glorieuses. Déjà, je vais faire circuler l'ouvrage que je viens de publier par ailleurs, mais des travaux aussi qui prenaient en considération bien les relations Paris-Banlieue, menées avec Annemie Fourcault et Emmanuel Bélanger, notamment, et le fruit d'un séminaire, qui nous a amené, enfin qui m'a amené personnellement à réinvestir, et vous voyez, je les diffuse très largement, des études au plus près du réseau, pour ce qui était de l'impact de l'automobile dans la cité. Et donc ces études au plus près du réseau m'ont conduit aussi, eh bien, à tâcher de trouver une forme, et ce n'est peut-être pas le rôle de l'historien, mais une forme de cohérence et de justification à la place de l'automobile dans la société contemporaine. Le théâtre parisien est tout petit, mais en fait c'est une scène nationale, internationale, globale même, à l'échelle des problèmes que l'automobilisme connaît aujourd'hui et suscite, des problèmes environnementaux, des problèmes d'arbitrage public en termes de dépenses, des problèmes aussi, eh bien, tout simplement de durabilité, de soutenabilité du développement. Et la question française n'est qu'une question parmi bien d'autres, avec quand même en ligne de fond le coût d'une transition énergétique qui est aujourd'hui, eh bien, apparaît à certains égards exorbitante. Et donc, de ce point de vue-là, je pose l'automobile comme étant au cœur des tensions globales, des mobilités, et ces tensions globales ont des répercussions locales, comme vous le savez, sur tous les plans locaux de déplacement urbain et autres. Et donc, ce que j'étudie, c'est aussi cette manière de reconsidérer l'automobile comme étant quelque chose, finalement, d'inhabituel en ville, qui aurait été imposé par la force, qui aurait finalement été le fruit d'un simple lobbying, et on passe d'un objet emblématique d'une civilisation, d'un objet qui est un marqueur du progrès et un marqueur du progrès social, évident au cours des Trente Glorieuses, quelque chose qui est domestiqué, et je vais y revenir dans un instant, mais la domestication de l'automobile n'a probablement d'équivalent qu'avec la domestication aujourd'hui du téléphone portable, comme objet technique. Et donc, de ce point de vue-là, on passe d'une automobile notre ami, qui était un peu une incantation, lancée avant la Seconde Guerre mondiale par Jacques Lost, à une automobile emblème de la civilisation, une automobile mythologique, finalement, comme chez Barthes en 1957. Eh bien, on passe à quelque chose qui serait ennemi dans une donnée aujourd'hui des sciences sociales, dans une configuration des sciences sociales, pardon, qui pose évidemment, eh bien, toutes les équivalences que l'on pouvait, auxquelles on pouvait encore croire, et ceci a des résonances politiques naturellement au premier chef, toutes ces équivalences entre progrès, progrès technique, progrès social, progrès des collectivités, eh bien ceci, cette équation, aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, est qu'elle n'a plus rien d'évident. Et les sociologues et les géographes, peut-être plus familiers de ces problématiques dans l'assistance, eh bien évidemment, sont très conscients de la déréalisation, de la délégitimation, sur laquelle je vais revenir en termes de sciences politiques, de cette équivalence sur la modernité. Le concept de modernité aujourd'hui pose problème. Et donc, au travers de l'ouvrage que je te laisserai, Vincent, sur les transports de la démocratie, nous revisitons cette dimension-là qui est peut-être plus de mobilité n'inclut pas plus de démocratie. Je vais y revenir dans un instant et j'évoquais le premier livre du groupe de recherche, donc P2M, c'est celui-ci, de l'histoire des transports à l'histoire de la mobilité. Et donc ce sont des problématiques désormais familières dans le champ, mais qui l'étaient moins il y a quand même une quinzaine d'années lorsque nous avons commencé à réfléchir là-dessus. Donc un grand ancêtre, nous l'avons cité, c'est un ancêtre de sciences politiques, c'est Gusfield, qui avait étudié cela pour les États-Unis autour d'une problématique qui était une problématique routière, mais finalement connexe de la problématique de l'alcool et de l'alcoolisme dans la société. Donc Gusfield avait évoqué la culture des problèmes publics et évidemment l'automobilisme, je le considère comme étant un problème public. Alors, les conséquences contemporaines, je ne vais pas m'y attarder parce que ce n'est pas le sujet, mais vous imaginez bien que je n'abdique rien d'une réflexion sur les modes dans l'espace public contemporain. Donc, lorsqu'on réfléchit sur le Grand Paris, eh bien, lorsqu'on réfléchit sur des exclusives modales, sur la construction à certains égards d'un tabou routier, eh bien, je viens rappeler le rôle de la route, et il est évidemment auprès des institutions nécessaire parfois de rappeler qu'à l'échelle française, c'est peut-être moins sensible à l'échelle parisienne paradoxalement, mais l'écho médiatique est tel qu'à l'échelle française, eh bien, 80% des déplacements de fret et de personnes sont assurés par le système automobile. Donc partant de là, il y a quand même 2-3 considérations qui rendent un peu moins naïf à tenir. Alors l'automobile des Trente Glorieuses, c'était précisément le dernier ouvrage que je fais circuler et qui évoque cette période. Il est très illustré et il vise à montrer l'impact finalement tous azimuts de cela. Enfin, il y a 2 autres publications et il y en a une que je mentionne tout particulièrement parce que c'est une collection que nous venons de fonder avec le groupe P2M qui s'appelle Mobilité et Société. Le premier ouvrage paraît au mois de janvier et cette collection... le premier ouvrage est consacré aux mobilités partagées et aux nouveaux capitalismes urbains. J'ai vu à Caen le système de vélo en libre service. Eh bien, on parle de cela, on parle d'autolib, on parle de tous ces systèmes qui s'achètent parfois à bon compte une vertu écologique. Et donc, il s'agit aussi de réfléchir à ce que, personnellement, avec un peu de provocation, j'appelle des gadgets mobilitaires de centre-ville. On pourra peut-être y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Enfin, toujours dans les arrière-plans de la recherche, le LABEX auquel j'appartiens, le LABEX Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, le LABEX EHNE, vient de publier, il sortait hier, je ne l'ai pas encore eu, sinon je vous l'aurais amené évidemment, ça aurait alourdi un peu plus mon sac, mais nous venons de sortir un ouvrage intitulé « L'Europe en transition », et dans cette Europe en transition, c'est tout l'axe des civilisations matérielles que nous avons cherché à développer. Bref, une actualité éditoriale qui, évidemment, est aussi portée par tous les débats publics. Et les débats publics, toutes les contestations, toutes les controverses que le champ nourrit. Et donc on n'est pas très loin de la Bretagne une fois que l'on est en Normandie, même si je ne confonds pas évidemment les deux. Enfin, les questions d'écotaxe qui feront que la route un jour devra payer son juste coût. Les questions de Lyon-Turin et de grandes infrastructures de transport telles qu'on les développe aujourd'hui, voire qu'on les conteste, voire de grands aéroports, de grandes infrastructures, toutes ces questions doivent être mises à l'agenda. Et évidemment, l'automobilisme n'est qu'une donnée. Et l'un des postulats que je présente devant vous, c'est celui-ci. Je le présente de façon humoristique, mais cette caricature me semble assez parlante. C'est-à-dire que dans le socle commun, celui qui est à certains égards si fragile, si fragilisé, si questionné, et les débats politiques en sont pleins, eh bien dans ce socle, il y a la route. Il y a la culture routière, il y a l'aspect folklorique et anecdotique que peut-être la Nationale 7 chantée par Charles Trenet, mais en tout cas l'ignorer reviendrait à creuser un fossé, à mon avis définitif, dangereux, en termes de populisme, à l'égard des personnes qui, majoritairement, utilisent encore l'automobilisme. Alors, l'hommage et la dette, les voici. C'est évidemment... le voisinage, le compagnonnage de loin, de près, parfois, on en a parlé dans ton bureau à plusieurs reprises, mais avec les travaux de Daniel Roche. Et puis je signale quand même cette grande chevauchée qui évoque des grandes traversées que Vincent Millot avait co-dirigées et qui était évidemment cet hommage à une œuvre si fondamentale, je trouve, et qu'il s'agirait de non pas de décalquer, mais C'est quelque chose que tu appelles de tes voeux dans le premier tome, le cheval moteur, qu'il s'agirait de poursuivre à l'âge où la dépendance est finalement cristallisée sur un autre objet qu'est l'automobile. Et donc, lorsque je réfléchis sur l'automobiliste, je réfléchis sur ses cultures équestres, je réfléchis sur la déclinaison de l'objet cheval au travers, alors le premier volume est peut-être celui qui me parle le plus, quoique on aura l'occasion d'y revenir, mais sur cette trivialisation finalement de l'objet. Sur cette trivialisation de l'animal qu'est le cheval et sa réduction au fait qu'il est un moteur. Et le monde de l'automobilisme, et là il y a des facilités dans lesquelles je ne sombrerai pas trop, du moins vous m'arrêterez si je le fais, mais évidemment on mesure la puissance d'une automobile ou encore un cheval moteur. Il y a là des éléments qui méritent, avant les chevaux fiscaux, mais qui méritent d'être réfléchis. Et donc le moteur, la dimension utilitaire, la dimension évidemment de représentation. C'est le volume que tu as consacré eh bien, au pouvoir finalement symbolique qui est associé au cheval, et l'automobile n'y échappe pas, et aussi eh bien, tout ce qui a trait à ce dernier tome là qui évoquait eh bien, les connaissances et passions autour de la culture équestre, et la prétention que je vais développer devant vous, et je vais prendre des exemples normands pour l'introduire, c'est que l'automobilisme finalement n'est pas moins noble à certains égards que le cheval. C'est évidemment toute une civilisation qui prend la route. Je me sers de cette citation comme marchepied à mon introduction, évidemment c'est extrait d'un autre de tes ouvrages, mais dans La France des Lumières, lorsque tu l'illustres avec Vernet, cette route, elle est porteuse d'autre chose que d'une simple matérialité, et j'y vois moi des convergences anciennes, et je ne citerai que deux personnalités. Je me suis arrêté tout à l'heure pour photographier l'amphithéâtre Alexis de Tocqueville que j'aperçois d'ici. Évidemment, lorsque Tocqueville se rend aux États-Unis d'Amérique très tôt, dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, enfin deux générations, en 1830-31, eh bien, il note qu'il y a une équivalence qui peut être tirée entre mobilité et prospérité. Et quelques années après, c'est son contemporain, mais du côté plus des ingénieurs, moins sociologue, moins politiste, eh bien, Michel Chevalier, Saint-Simonien, tire exactement la même équivalence. Avec une dimension civilisationnelle qui est assez intéressante parce que il a une formule qui est très célèbre et que je cite de mémoire. Il dit que les régimes tyranniques craignent un ingénieur des ponts et chaussées à l'égal d'un éditeur de Voltaire. Et donc évidemment, créer une route, créer une infrastructure, créer peut-être une autoroute, un aéroport, eh bien c'est créer un moyen infrastructurel de diffuser aussi des idées. Et la tension de l'époque, elle est très claire, c'est que plus de mobilité crée plus de démocratie. C'est un rêve auquel on peut souscrire peut-être quand on est éclairé, en tout cas inspiré des Lumières. Alors, ce que je suggère aussi, et là je tire évidemment les choses sur le très contemporain, c'est que cette civilisation équestre, elle n'est pas morte, mais elle est reléguée dans un arrière-monde de la société contemporaine. Au mieux les clubs équestres, au mieux une présence anecdotique dans l'espace public, eh bien à certains égards c'est ce qui est promis à l'automobilisme. Par notamment la grande convergence numérique, par l'inéluctable programmation de ce que nous présente parfois comme eh bien la mort programmée de ce que j'appelle moi l'objet sensationnel qu'est l'automobile, c'est-à-dire l'objet créateur de sensations au sens propre. Et je vais le justifier texte en main, si j'ose dire. Cet objet créateur de sensations, eh bien c'est celui qui confronte ces deux images. Quand même, je m'arrête un instant. Parce que l'image de gauche, c'est le traitement numérique de la réalité dite augmentée d'un objet qui est l'objet roulant, la robomobile, que je préfère à l'appellation de véhicule autonome, car l'autonomie de ce véhicule, elle est très discutable. Eh bien, cette robomobile, finalement, détecte l'espace grâce à ses lidars qui vont repérer des zones, alors, plus ou moins différenciées, qui permettront au véhicule d'avancer, de progresser, ou au contraire de s'arrêter. Et pour l'instant, on en est quand même plutôt là, parce que la transition, elle va être beaucoup plus longue que ce que l'on veut bien suggérer. Et donc là, vous avez une image du réel. Mais vous me permettrez de proférer cette image du réel. Cette image du réel qui est une image de Geoham. Et vous allez voir, c'est un artiste, Geoham, H-A-M, qui a représenté eh bien ce que permettait finalement l'automobilisme à ses débuts, Là, les débuts sont déjà bien prononcés. On a déjà une carrosserie de véhicule qui permet de la dater des années 30, 1930. Eh bien, c'est quelque chose qui crée un rapport différent au paysage. L'obscurité y rajoute quelque chose, et il y a des citations nombreuses sur ce que la conduite nocturne permettait comme création de sensations. Et vous allez voir, ce n'est pas médiocre comme qualité sensationnelle. Je dirais que ça n'a rien à voir avec la lecture du réel par un lidar qui est totalement indifférencié et qui met pour le coup totalement à plat la réalité qui, loin d'être augmentée, est une réalité désincarnée. Et je vais tâcher de revenir là-dessus. Et donc, les désamours contemporains, qui sont nombreux, et je vais revenir sur la crise écologique, sur la crise patrimoniale, mais l'impact numérique, et peut-être aussi cette fontaine de jouvence trompeuse du monde de l'automobile, qui conduit finalement à déréaliser le rapport à l'objet automobile. Et toutes ces nouvelles mobilités que l'on nous promet, dont on est finalement volens nolens les acteurs et les contemporains, les autocars, toutes ces mobilités contemporaines, la voiture partagée, la low-costisation générale des moyens de transport, eh bien, finalement, éloigne à certains égards et conduit à la résignation vis-à-vis de ce que l'automobilisme d'abord a permis. Et là, je vais tirer résolument vers des horizons philosophiques, au moins l'introduction de cette réflexion, parce que de cette communication, parce que ce que l'on nous promet, c'est l'abandon définitif de cet objet. Et cet objet, je dirais, qu'il n'a rien à envier à l'univers des pur sang, à l'univers des arts équestres, celui qui est classé à l'UNESCO, à l'univers de l'art, des beaux-arts, qui était celui d'une automobile grand style. Je vais y revenir. Mais l'automobile qui rentre au MoMA, au Muséum d'Art Moderne, à New York, dès après la Seconde Guerre mondiale, cette automobile qui est représentée dans quelques musées français, mais pas assez, et qui est totalement absente en région parisienne, si l'on exclut le Conservatoire national des arts et métiers. Cette absence de l'automobile au rang muséographique, qui est quand même une manière de donner des lettres de noblesse à un objet, est un scandale, je vais le redire, en région parisienne, on va pouvoir y revenir. Mais ce qui nous est promis, c'est cela, et donc vous me permettrez d'être moins excité, si j'ose dire, par une Ferrari que par un iPhone à roues. Que par, également, et c'est un écrivain qui l'a rédigé, Baricot, par eh bien un réel désincarné, un réel de barbare, et ces nouveaux entrants du monde de l'automobile, qui sont, et là ça nous rallie et ça nous relie à la Silicon Valley, aux problématiques les plus contemporaines du transhumanisme, de la déshumanisation, et bien tous ces nouveaux barbares qui mettent à plat des éléments sans financer des infrastructures, en payant des impôts ailleurs, toute cette ubérisation globale de la société, et bien l'automobilisme à certains égards est fondé à y résister, je vais tâcher de le détailler. Et donc ces barbares, et bien ils ont un sens. Ça nous permet aussi de réfléchir à certaines incompréhensions, incohérences contemporaines. Et là, naturellement, eh bien, lorsque l'on prétend déréaliser la ville, lorsque l'on prétend en exclure les automobiles dans ses centres, en bord de Seine, ou ailleurs, même si les bords de Seine ne sont qu'anecdotiques, eu égard à la dépendance générale de la société à l'automobile, eh bien, il y aurait beaucoup à dire sur les réticences que l'on peut avoir à voir disparaître cet objet qui était un objet de vie profondément. Et le fait que les bords de Seine aient été utilisés pour des tâches utilitaires depuis Louis-Sébastien Mercier et bien d'autres, et ça c'est un hommage à l'époque moderne évidemment, mais finalement le regard touristique sur la Seine ne date qu'au mieux d'une cinquantaine d'années. Et la patrimonialisation à l'UNESCO des berges de Seine ne date que de 1991. Donc me dire qu'il y a là une justification historique à cette reconquête entre guillemets, je le conteste totalement en tant qu'historien de l'automobile à Paris. Alors je vous ai promis une introduction normande et littéraire, je m'y tiens. Mais je m'y tiens par Flaubert, d'abord. On en a parlé tout à l'heure avant le déjeuner avec Daniel Roche, mais évidemment, dans Un cœur simple, ça se tient pas très loin d'ici, tous les lieux d'Un cœur simple, Flaubert évoque ce cœur simple qu'il piste et dont les mouvements en Normandie l'intéressent. Et cette servante qui déménage à un moment, qui se rend au bain de mer de Trouville avec sa maîtresse, cette servante qui part de Pont-l'Évêque, qui passe par Touques, Honfleur, enfin bien d'autres endroits sont mentionnés chez Flaubert, qu'il connaît parfaitement, comme vous le savez, mieux que moi. Eh bien, Flaubert évoque un petit voyage. Petit voyage, mais grande aventure. Petit voyage qui n'est qu'un voyage de, finalement, une dizaine de kilomètres, même pas, 8 kilomètres. Et il évoque ceci, c'est-à-dire que les colis partent la veille. Et le lendemain, la charrette part, elle, de Liébard. Deux chevaux arrivent avec une selle de femme et un dossier de velours. Et il évoque, il décrit en 3 lignes, je ne lis là que 3 lignes, je vais être plus long sur Proust qui va suivre, mais il évoque une route qui était si mauvaise que les 8 kilomètres exigèrent 2 heures. Les chevaux enfonçaient jusqu'au pâturon dans la boue et faisaient pour en sortir de brusques mouvements des hanches. Ou bien ils butaient contre les ornières. D'autres fois, il leur fallait sauter. La jument de Liébard, à de certains endroits, s'arrêtait tout à coup. Il attendait patiemment qu'elle se remît en marche et il parlait des personnes dont les propriétés bordaient la route, ajoutant à leur histoire des réflexions morales. Ce que je vais en retenir, si vous permettez, c'est que la route était si mauvaise que 8 kilomètres exigèrent 2 heures. Un cœur simple, 1877. 30 ans après, Marcel Proust est le premier à donner ses lettres de noblesse à l'automobilisme. Dans au moins 2 œuvres. Dans quelques pages d'À la recherche du temps perdu, quelques pages de Sodome et Gomorre, où il dit qu'il s'agit de se mettre en selle et d'apprêter l'automobile dans la même phrase. Se mettre en selle et d'apprêter l'automobile. Et dans Les journées en automobile, qui sont dans l'édition de la Pléiade, dans Pastiche des mélanges, qui avait été publié dans le Figaro en 1907. Ce sont ces voyages, donc je vais lire une citation un peu longue si vous permettez, mais elle se termine par du localisme, donc j'espère que vous m'en excuserez. Donc c'est ces journées en automobile qu'il décrit. Partie 2, à une heure assez avancée de l'après-midi, je n'avais pas de temps à perdre, si je voulais arriver avant la nuit chez mes parents, à mi-chemin à peu près entre Lisieux et Louviers. À ma droite, à ma gauche, devant moi, le vitrage de l'automobile que je gardais fermé mettait, pour ainsi dire, sous verre la belle journée de septembre que, même à l'air libre, on ne voyait plus qu'à travers une sorte de transparence. Du plus loin qu'elle nous apercevait, sur la route où elle se tenait courbée, de vieilles maisons bancales couraient prestement au devant de nous. C'est le paysage qui vient au devant de la voiture. Elle venait au devant de nous en tendant quelques roses fraîches où nous montrait avec fierté la jeune rose trémière qu'elle avait élevée et qui déjà les dépassait de la taille. D'autres maisons venaient appuyer tendrement sur un poirier que leur vieillesse aveugle avait l'illusion d'étayer encore et le serrait contre leur cœur meurtri où il avait immobilisé et incrusté à jamais l'irradiation chétive et passionnée de ses branches. Bientôt, la route tourna et le talus qui la bordait sur la droite s'étant abaissé, la plaine de Caen apparut sans la ville qui, comprise pourtant dans l'étendue que j'avais sous les yeux, ne se laissait voir ni deviner à cause de l'éloignement. Et il décrit l'éloignement, et il décrit le trajet. J'avais demandé au mécanicien de m'arrêter un instant devant les clochers de Saint-Étienne. Il arrive à la nuit, il y a exactement la même scène que celle que Jérôme Ham décrivait tout à l'heure. C'est-à-dire que son mécanicien, Agostinelli, qui était bien plus que son mécanicien, qui disparaît en 1914, qui était un passionné d'aviation également, et il avait promis à son mécanicien de graver un vers de Mallarmé sur son avion. C'était le vivant, le bel aujourd'hui, le vivace, le bel aujourd'hui. Et bref, il y avait là une forme de synesthésie, de sensation que Proust greffait sur son mécanicien. Et il lui est demandé d'éclairer les façades gothiques des églises romanes gothiques de Normandie. Et donc vraiment c'est cette scène-là que Proust décrit. Mais cette scène-là qu'il décrit sur cette voiture d'ailleurs, alors ce n'est pas Proust le passager, c'est Odilon Albaret qui est le mari de sa servante, bien connu dans la recherche. Et la voiture, c'est celle-ci, c'est une Charron. Il y a 2 marques de voitures qui sont citées dans la recherche, il y a Charron et Rolls-Royce. Et donc on a là une scène typique proustienne, mais il continue parce que il qualifie, et je le pense définitivement, la dimension qualitative du voyage en automobile. Et Marcel Proust évoque la capacité de rapprochement que l'automobile procure
à ses occupants, qu'ils soient chauffeurs ou passagers. Et Proust n'était pas chauffeur, à l'époque où on avait un chauffeur qui chauffait la mécanique. Et donc, il évoque ces villages. Rester si longtemps inapprochable à l'effort de notre machine qui semblait patiner vainement sur la route, toujours à la même distance d'eux, c'est dans les dernières secondes seulement que la vitesse de tout le temps totalisé devenait appréciable. Il évoque plus loin, et je ne vais pas trop en lire, mais quand même, il évoque le fait, le mystère du mécanicien, qui est une forme de nonne de la vitesse, avec sa capuche, avec sa tenue si caractéristique des premiers automobilistes. Et il a des métaphores extraordinaires. Il parle de ce mécanicien qui, en accélérant, fait comme un organiste et qui mobilise Sainte Cécile, donc la patronne des musiciens, et qui permet, selon les vitesses atteintes, de tirer des jeux de musique, des jeux d'orgue du moteur. Et donc il transfigure cela d'une façon extrêmement lyrique, mais qui est celle que je veux retenir là pour commencer. Et donc il évoque aussi la possible mort du mécanicien et du conducteur, qui est chose fréquente éventuellement à l'époque. Il y a un vrai héroïsme, comme nous allons le voir. Donc il dit « Puisse le volant de direction du jeune mécanicien qui me conduit rester toujours le symbole de son talent plutôt que d'être la préfiguration de son supplice. » Il évoque encore la capacité d'indépendance que l'automobile donne et restitue à la route et à l'automobile. Il évoque le fait que l'automobile redonne aux voyageurs sur route des qualités que le chemin de fer lui avait fait perdre. Et Marcel Proust est extrêmement enthousiaste pour le chemin de fer, mais plus encore pour l'automobile qui est le vecteur d'une vitesse de qualité nouvelle, une vitesse personnelle. Et donc il a cette phrase qui sert d'exergue à mon ouvrage sur les cultures du volant, c'est-à-dire que ce que l'automobile nous a rendu de plus précieux, c'est cette admirable indépendance qui le faisait partir à l'heure, le voyageur, qu'il pouvait s'arrêter là où il plaisait. Tout cela me comprendront que parfois le vent en passant a soudain touché du désir irrésistible de fuir avec lui jusqu'à la mer. Fuir avec lui jusqu'à la mer. L'automobile, la capacité, la liberté de déplacement qu'elle permet, eh bien c'est ça. Et dans quelques fictions liées à l'automobilisme automatique, à la conduite autonome que l'on nous présente parfois aujourd'hui, il va y avoir le moment, je vous l'annonce, où si j'aventure cette prophétie orwellienne se réalise, il y aura un moment où il faudra déclarer tous ces déplacements. C'est-à-dire que la traçabilité sera derrière tous les déplacements. Et évidemment, pour qui aime l'automobilisme, ceci est quelque chose d'insupportable. Et donc, il évoque, 30 ans après Flaubert, et c'est là ce qui me ramène à ce pas du cheval, qui était la mesure de tout avant, la nouvelle belle mesure de la terre que l'automobile permet. Et donc, elle permet d'un seul bond, de faire 20 pas d'un excellent cheval. Et il poursuit sur justement cette capacité nouvelle que procure l'automobile, c'est un peu long, mais cela mérite d'être cité, c'est-à-dire que l'automobile permet, comme un compas, de déterminer désormais nous-mêmes l'accessibilité au lieu. Elle permet de nous aider à sentir d'une main plus amoureusement exploratrice, je répète parce qu'il y a une volupté de l'automobilisme là qui est présente, elle nous aide à sentir avec une plus fine précision la véritable géométrie, la belle mesure de la Terre. Ce qui se joue avec ces premiers temps de l'automobilisme, c'est une nouvelle mesure de la Terre, ni plus, ni moins. Alors, partant de ce point de vue, la science triomphe dans l'automobilisme. Et certains sont peut-être là encore, si j'ai bien compris, la prochaine fois au séminaire qui croise le programme d'histoire moderne de l'agrégation, que je préférerais corriger par rapport au programme d'histoire contemporaine qui nous est promis sur le Moyen-Orient. Mais cette sortie d'histoire moderne est passionnante parce que, précisément, ça permet de nouer tout ce qui se joue autour de la diffusion de la science et des technologies à l'époque moderne. Et il y a une personne qui rassemble tout cela dans un écrit, c'est un publiciste, c'est Paul Adam, dans un ouvrage intitulé « La morale des sports ». Bon, qui est un ouvrage secondaire, et là toutes les références au travers desquelles je circule ne sont pas des références forcément grandioses et prioritaires, mais dans la morale des sports, Paul Adam explique que jamais une idée nouvelle ne s'est substitué si rapidement à ses devancières. Il parle de l'automobile. Il parle de l'affluence incommensurable de la multitude à l'exposition de l'automobile, donc au salon de l'auto. Le premier a lieu à Paris en 1898. L'automobile devient l'objet d'un culte et d'une foi. Ceci est écrit en 1906. Ceux qui de la mécanique ignorent tout, ceux qui ne couvrent aucun espoir de se livrer à ce sport sont enthousiastes, comme ceux qui vivent du miracle neuf et de ses conséquences financières. Jamais industrie n'obtint du peuple un pareil hommage. Jamais découverte n'obtint des foules une semblable vénération. Le sentiment des hommes à l'égard de l'appareil est d'espèce religieuse. Tout ce que les professeurs enseignèrent depuis deux siècles sur les merveilles de la physique devient tout à coup visible, tangible, effectif. La science conquiert par l'automobile la force d'une philosophie tout à coup réalisée. Une philosophie réalisée, une science aboutie finalement. L'automobilisme, c'est cela qui conjugue des avancées scientifiques et des avancées technologiques. La photo de Jacques-Henri Lartigue l'exprime, c'est une automobile conquérante qui passe ici. Une automobile justifiée dans Baricot, que j'ai déjà cité, mais dans le peut-être le plus beau roman et le plus suggestif sur l'automobilisme, qui est un roman contemporain de 2005, où il évoque le fait que l'automobile était une reine. Et on mesure mal, évidemment, aujourd'hui, vu le degré de... Enfin, on est très blasé vis-à-vis de la vitesse automobile, même vis-à-vis de la vitesse aérienne. Enfin, le désespoir, mon désespoir de père, c'est mes enfants qui s'endorment lorsque l'avion s'envole. C'est juste un scandale. C'est-à-dire qu'ils ne mesurent plus l'effet de défraction, de déflagration sensationnelle qu'a pu permettre l'automobile, qui était un rêve, une vitesse, un miracle. Cette forme d'héroïsme, elle est très claire. Lorsque l'on mesure l'accélération de l'époque. Et ceci se joue en deux décennies, celles sur lesquelles je vais insister, je vais être beaucoup plus rapide, et à la fin, ça sera une collection d'images que je vous suggérerai. Donc je suis un peu plus long là-dessus, naturellement. Mais c'est aussi la période la plus intéressante, parce que la transition avec le cheval n'est pas achevée avant les années 30. Et donc, on a encore deux systèmes qui coexistent. Deux systèmes qui, finalement, vont être concurrents un temps, mais l'automobile va évoluer dans des sphères cinétiques tellement décalées qu'elle va reléguer le cheval à d'autres chapitres, des chapitres utilitaires éventuellement, voire des chapitres résolument aristocratiques, tels que Daniel Roche les restitue dans les connaissances et les passions associées à l'animal. Mais bon, là, les vitesses et les puissances, ce tableau qui en décrit l'augmentation est assez éloquent. Il faut quand même avoir l'idée que sur le Paris-Rouen sur lequel je vais revenir, ou plutôt le Paris-Bordeaux et retour, Paris-Bordeaux-Paris de 1895, qui est la première épreuve automobile au sens sportif moderne du terme, la vitesse moyenne est de 24 km/h. Sur ce même itinéraire, Paris-Bordeaux, en 1903, lorsque la course, qui était le Paris-Madrid originellement, est interrompue à Bordeaux, parce qu'il y a déjà 12 morts, était une course sur route ouverte. Mais on interrompt la course, on dit, voilà, l'hécatombe a assez duré, on va s'arrêter à Bordeaux. La vitesse était de 103 km/h, la vitesse moyenne. La vitesse moyenne de Marcel Renault avant qu'il ne décède pendant cette épreuve est de 103 km/h. 1903, c'est donc deux années après le Paris-Berlin, et sur Paris-Berlin, on était à 71 km/h, sur des routes qui n'ont rien à voir avec les routes contemporaines. Et pour le faire assez souvent, ce sud-ouest que j'apprécie pour diverses raisons, un 105 km/h sur Paris-Bordeaux, c'est très difficilement battable aux vitesses réglementaires contemporaines. C'est-à-dire qu'on arrive à cette vitesse moyenne par la route et l'autoroute. Donc, y a là une magie, un héroïsme. Et le Paris-Berlin, bah, voilà, il est gagné par Terry. Et lorsque j'évoque les arts de l'automobilisme, ils sont pluriels, ces arts. Ils empruntent évidemment aux objets d'exception tels que le musée de Compiègne peut les exposer. Le musée, je rappellerai, de la voiture, mais pas que automobile, évidemment, les carrosseries, etc., mais dont l'automobilisme hérite à bien des égards. Donc il y a des arts de la carrosserie, il y a des arts qui empruntent à l'héritage équestre, mais il y a aussi des arts funéraires. Et lorsque vous êtes au Père-Lachaise devant la tombe de Terry, vous êtes devant la tombe de celui qui a gagné des courses internationales, qui a contribué au Paris-Berlin. Et puis vous voyez, il est enterré sub specie aeternitatis, hein, comme quiconque voudrait être enterré quand on a une passion, c'est-à-dire le volant en main, et sa pierre tombale, c'est un radiateur d'automobile. Vous êtes quand même là devant une mise en abîme que les arts funéraires perpétuent. Et cette poétique et cet art nouveau, naturellement, les futuristes l'évoquent. Et Marcel Proust ne disait pas autre chose tout à l'heure, lorsqu'il disait que le paysage venait à la rencontre des voitures, et que le paysage était déformé. Et donc évidemment, tout l'art futuriste contribue à créer cette esthétique nouvelle, qui a une violence indiscutable, dont Marinetti s'est fait le héros. Et donc, lorsque en 1909 paraît le Manifeste du futurisme, la comparaison est audacieuse, mais enfin la victoire de Samothrace est reléguée au deuxième rang, par rapport au moteur et à l'haleine de ses tuyaux, par rapport à la vitesse. Mais cette vitesse, eh bien, elle peut avoir différentes qualités. Et je sais que parmi toutes les sources de l'histoire équestre figurent toutes les encyclopédies, tous les livres de secrets, tous les livres d'équitation, tous les manuels, etc. Eh bien, en automobile, au départ, il en est de même. C'est-à-dire qu'il s'agit de s'agréger à une confrérie d'élite. Et cette confrérie d'élite, c'est une confrérie qui a un éthos particulier, une éthique particulière de la pratique de l'automobile, et qui pratique, et on ne va pas les confondre, et Louis Baudry-Saunier est là pour nous l'expliquer, une vitesse de qualité, qui n'est pas la vitesse démocratique. Et donc cette vitesse de qualité, c'est celle qui permet de bien conduire. Et donc parmi ces nombreux manuels, finalement, vademécum des conducteurs, eh bien, une édition d'un ouvrage constamment réédité depuis sa première version, qui date vraiment du tout début du XXe siècle, jusqu'à des éditions réactualisées, puis il finit par décéder, Louis Baudry-Saunier, avant la Seconde Guerre mondiale, mais juste après la Seconde Guerre mondiale, paraît d'Edmond Dujardin le nouvel art du volant. Et le mot d'ordre, quand même, dans la société aujourd'hui qui fait de la vitesse un tabou à certains égards, le titre c'est accélérer. Accélérer. Enfin, on a peine à envisager cela naturellement aujourd'hui. Et pourtant, ce que je tâche de mesurer, c'est l'épaisseur d'un désir. La cohérence d'un désir. Et vous l'aurez compris, je trace une ligne assez droite, finalement, depuis les premiers sentiments, les premières sensations que l'automobilisme a su créer et que Marcel Proust a décrit, jusqu'aux rêves les plus contemporains. Et donc je rappellerai là, depuis les premières affiches du mondial du salon de l'automobile, jusqu'au mondial de l'automobile contemporain. Et il se trouve que cette année, j'étais commissaire invité de l'exposition du Hall 8 au mondial qui traitait de l'automobile et du cinéma. Évidemment, les deux techniques contemporaines, etc., etc. On parle d'un événement qui draine plus d'un million de visiteurs. Et le hall 8, qui est le hall culturel, bon, draine 700 000 visiteurs. 700 000 visiteurs, c'est deux fois plus que le musée de Mulhouse, qui est le plus beau musée automobile en France. C'est sur 15 jours, 3 week-ends. Mais enfin, ça dit quelque chose du désir d'automobile, pourtant dans une ville qui, vous l'aurez compris, n'y fait pas une grande part. Alors, cette automobile, elle n'a pas de musée à Paris, mais elle a des musées qui sont des véritables Guggenheim. Pour reprendre la métaphore new-yorkaise, des Guggenheim de l'automobile. Et lorsque vous allez chez Daimler, donc chez Mercedes, Benz, mais c'est Daimler, le groupe Daimler, lorsque vous allez chez Daimler à Stuttgart, vous êtes confronté à un musée incroyable qui fait, lui aussi, 800 000 visiteurs par an. Et vous avez le Saint des Saints, et c'est d'ailleurs très, très amusant, parce qu'il y a un cheval empaillé, qui est, je ne sais pas si tu l'as déjà visité, mais c'est une visite pour toi, parce que il y a ce cheval empaillé, et puis après il y a la société automobile, le monde de l'automobilisme, et puis on descend la rampe, comme au Guggenheim, on descend la rampe, et puis on voit toutes les créations. Je dirais que là, le déficit est patent en France et en région parisienne, c'est-à-dire qu'on a conservé de Renault en région parisienne que le portail de l'usine. On n'a pas su donner sa dimension, pourtant, très importante, vous l'aurez compris, culturelle, sociale, politique, enfin tous les adossements que l'on voudrait à ce monde, on n'a pas su le reconnaître, on ne sait plus le voir, tout simplement. Or, eh bien, si vous allez en Allemagne, changer de côté de la rivière, vous irez au musée Porsche, où on va vous expliquer ce qu'est la philosophie 911. Et la philosophie 911, je vous prie de le croire, c'est pas médiocre comme tentative d'investissement, de sentiment. Alors évidemment, c'est un véhicule d'exception très cher. Enfin, le mythe est gratuit. Donc on peut participer à ce mythe en le visitant, et le bâtiment est extraordinaire. Et là encore, 600 à 700 000 visiteurs par an. On est en Allemagne. Mais en France, il y a eu quelques exemples. Il y a eu l'exposition de la collection Ralph Lauren aux arts décoratifs. 200 000 visiteurs. Donc des véhicules d'exception qui faisaient vraiment de l'automobile un objet d'art. L'art et l'automobile, précisément, eh bien c'est une tendance, alors, qui est un peu éclipsée
par alors le dessin humoristique de Reiser, parce que lorsque les riches ont l'automobile, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tout le monde en a, bah c'est quelque chose, c'est une bagnole, on n'en parle plus. Donc ça n'a plus d'intérêt. Mais Hervé Poulain, le commissaire Priseur, lorsqu'il publie cet ouvrage en 1973, évidemment il donne ses lettres de noblesse à l'art qui entoure, qui accompagne le phénomène automobile, et c'est une assez démocratique Citroën qui présente ici la couverture de l'ouvrage avec la place Vendôme derrière. Alors, fort de ces quelques arrière-mondes, mais vous l'avez bien compris, je n'abandonne pas le monde de l'élitisme automobile pour l'agréger aux servitudes contemporaines, mais qui, vous allez le voir, sont également contemporaines des débuts de l'automobilisme. C'est un tout. C'est ce que j'appelle, moi, les mondes de l'automobilisme. Et dans les mondes de l'automobilisme, il y a plusieurs galaxies, il y a plusieurs univers qui coexistent et qui se répondent. Et le point commun entre le cheval de trait, le moins noble qui soit, la carne qu'on va laisser crever sur la chaussée parisienne une fois qu'elle n'en peut plus d'accomplir son travail de moteur, le point commun avec la voiture utilitaire, c'est que on ne la regarde pas. Mais à côté de ce monde des voitures utilitaires, des chevaux sans noblesse, il y a le monde des purs sang, il y a le monde des yearlings, il y a le monde des Ferrari, il y a le monde des voitures d'exception. Et là, il y a superposition entre les deux univers. Alors, je le ramène au point d'ancrage urbain, qui est peut-être celui qui mobilise le plus le séminaire ici. Le point d'ancrage urbain, c'est Paris. Et mon entrée dans le sujet, c'est l'entrée dans l'épicentre de cela. Et Paris a accompagné les débuts du phénomène automobile parce que Paris est prédestiné à cela du fait, eh bien, de ce que je vais résumer très largement, lâchement, à bride abattue, hein, c'est ce phénomène d'urbanisation bien connu, de capitalisation, de métropolisation, de mondialisation. Et à chaque fois, l'automobilisme finalement a eu voix au chapitre. Alors, l'automobilisme n'est finalement qu'un élément des révolutions au pluriel de la ville industrielle. Les éléments les plus notoires des révolutions mobilitaires, hein, c'est le chemin de fer. Ce sont les modes lourds, bien évidemment, qui vont structurer en région parisienne à partir de 1837 et du Paris Saint-Germain, eh bien, les voyageurs, les voyages de plus en plus quotidiens, les voyages ouvriers, éventuellement, le futur commuting, banlieue, Paris qui commence à se structurer au 19e siècle. Les ingénieurs des ponts et chaussées qui vont tâcher de façonner le paysage de la façon parfois la plus esthétique possible, d'insérer le chemin de fer, qui est pourtant aussi une bête étrange, une bête qui suggère l'étonnement des peintres impressionnistes et d'autres, qui fait pousser de hauts cris aux détenteurs, soi-disant, de la beauté de l'éternel parisien, du vieux Paris qui ne s'accommode pas de l'objet chemin de fer. Bon, bah les ingénieurs vont tâcher de proposer des vues intéressantes. Mais c'est une révolution globale des mobilités que Paris accompagne. Alors, sans remonter à Pascal et aux carrosses à 5 sols, mais les compagnies de transport en commun de la région parisienne y remontent elles-mêmes. Là, vous avez la couverture de la première brochure interne de communication de la Société des transports en commun de la région parisienne. Elle paraît en 1929, ou 1927, je ne sais plus. Enfin, l'une des deux. 1929, pardon. Et donc, en 1929, on évoque les carrosses à 5 sols de Pascal. Donc, cette tradition du transport en commun lourd, massif, eh bien, elle évoque tous les modes. Et évidemment, le mode hippomobile. Mais toutes les innovations sont présentes dans le théâtre parisien. Les airs également, qui demeureront anecdotiques, mais enfin qui méritent d'être signalés tant ils sont une porte de sortie, d'exposition des modes de transport nouveaux. Alors Paris est évidemment ce lieu de capitalisation qu'est la ville lumière, capitalisation culturelle, universitaire, académique, enfin tout ce que l'on veut, avec des grands événements, les expositions universelles. J'ai mis la Sorbonne, j'ai mis Saint-Germain, j'ai mis le Palais des Machines et autres. Vous êtes là devant une sédimentation qui fait de la capitale un endroit de modernité, de réforme urbaine, toutes choses que je ne détaillerai pas, mais évidemment, la ville des réseaux et le Grand Paris industrialisé s'imposent avec une forme de technicisation de l'approche
urbaine, ce qui donne lieu parfois à des manifestations dans le paysage urbanistique, des grandes avenues et autres, mais qui sont le support d'une ville invisible, chose que je ne détaille pas. Des modes de transport révolutionnaires, le métropolitain, jamais, je m'empresse de le dire, jamais l'automobile n'a été majoritaire, et loin de là, dans les modes de transport parisiens, y compris au beau temps de l'autobus, et vous avez bien compris que je comprends l'autobus dans la galaxie de l'automobilisme, c'est le métropolitain. Mais pour autant, la culture plurielle des transports publics en région parisienne ne doit pas être négligée. Et donc le métropolitain, même s'il est très présent, eh bien n'a fait qu'accompagner lui-même d'autres révolutions. Et parmi ces autres révolutions, il y en a une qui a toute sa légitimité, c'est la révolution de l'industrie automobile. Et cette révolution de l'industrie automobile, c'est celle qui donne finalement, dans les coulisses de la Belle Époque, c'est celle qui donne, par la légitimité du travail, en même temps, une forme de légitimité à la place dans l'espace public que va conquérir l'automobile. Et donc, cette place que conquiert l'automobile dans la vie quotidienne, cette place que conquiert l'automobile dans les pratiques, dans les us et coutumes, dans les modes de vie, dans les mœurs, je n'en finirai pas d'élargir, eh bien cette place, elle le doit aussi à l'activité économique, et peut-être prioritairement à l'activité économique qui la sous-tend. Et donc, il y a des textes que j'ai mis en circulation, donc que j'ai exhumé. Ma première source était le bulletin municipal du Conseil municipal parisien et le bulletin du Conseil général. Tous les rapports et documents qui l'accompagnaient. Eh bien, ces sources témoignaient du fait que l'automobile était un bienfait public. Bienfait public parce que dès 1903, il était noté par un conseiller municipal, Paul Escudier, pour ne pas le citer, conseiller municipal du 9e arrondissement, que l'automobile régnait à Paris et qu'elle régnait avec près de 150 000, donnait-il déjà comme chiffre, 150 000 ouvriers qui, de près ou de loin, vivaient de l'automobile. Alors, évidemment, ceci se retrouvait dans les usines, dans les concentrations ouvrières très présentes. Et donc, cette histoire sociale, lorsque j'étais au centre d'histoire sociale au début, évidemment, c'était très présent dans mes recherches, mais cette histoire sociale, cette histoire des usines, qui est très bien faite par ailleurs, donc il ne s'agissait pas de la refaire, c'est pourquoi je me suis tourné vers les usages de l'automobile et son impact, eh bien cette histoire sociale, c'est cette histoire sociale des usines Panhard et Levasseur que vous avez là, des usines Citroën que je vais présenter, qui sont ici, dans le 15e arrondissement. Ça me permettra de passer plus vite tout à l'heure. Ces usines Citroën, aujourd'hui transformées en parc Quai de Javel, parc Javel, André Citroën. Toutes ces usines ont, depuis les années 1970, disparu. Il conviendrait d'évoquer également la proche banlieue parisienne. Et cette proche banlieue parisienne, ce sont tous les lieux de Suresnes, Levallois, Billancourt, qui vont accueillir les usines automobiles, Renault étant emblématique. Mais ceci se concrétise véritablement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des concentrations ouvrières considérables, des 30 000, 40 000 ouvriers employés par endroit. Ce saut chronologique m'incite à bien poser ce qui a précédé. Ce qui a précédé, ce sont les cercles concentriques qui vont permettre l'extension du domaine de l'automobilisme. Et l'extension du domaine de l'automobilisme, eh bien, c'est la conquête, au-delà des représentations de Van Dongen, au bois, des représentations si charmantes qui présentent les sports équestres. Hein. Ils sont là, les cavaliers, mais relégués par rapport à l'avenue de l'Impératrice, l'avenue du Bois de Boulogne, qui témoigne bien désormais que le haut du pavé est tenu par des fiacres automobiles, le mot est le même, par des petits coupés élégants qui permettent eh bien cette vitesse automobile. Et c'est vraiment cette civilisation de la vitesse qui s'impose chez les sportsmen aisés, huppés de la région parisienne. Et tout ce mode de vie, eh bien, il est accompagné par quelques cercles, par quelques clubs. Et parmi ces clubs, l'Automobile Club de France, qui est le premier automobile club au monde, 1895. Et l'appellation inverse l'adjectif comme en anglais, mais les Anglais ont raté les débuts de l'automobilisme. Et ceci pour une raison assez simple, c'est la puissance du secteur des chemins de fer et le fait que le Red Flag Act, ce qui imposait administrativement à un véhicule routier d'être précédé d'un piéton avec un drapeau rouge, le Red Flag Act, est aboli en 1896. Et donc, jusqu'en 1896, et donc la révolution de l'automobilisme a déjà 10 ans, grosso modo, jusqu'en 1896, bien l'Angleterre est seconde dans la révolution automobile. Et elle va rattraper cela. Mais le Royal Automobile Club n'est fondé, lui, qu'en 1897. Les Français ont tiré les premiers en la matière. Et donc, ils ont tiré les premiers en organisant des expositions, le Salon, 1898, dont le mondial actuel est le glorieux héritier, en organisant des concours. Et là, évidemment, l'automobilisme fait feu de tout bois, parce que j'ai reproduit ces archives, qui sont des sources à part entière, des livrets qui accompagnent les concours de véhicules industriels. Et donc, dans la problématisation de la diffusion de l'automobilisme, j'insiste bien sur ce fait, que j'avais rendu tangible dans ma thèse, c'est qu'il y a une première phase de démocratisation des usages qui précède d'une quarantaine d'années la société de consommation automobile et la démocratisation de la possession automobile. Mais la démocratisation des usages de l'automobile, eh bien la voici sur les automobiles professionnelles, les automobiles qui touchent les services publics, les services de ministère, les services de livraison des magasins, les services militaires, bref, tout un ensemble qui va irriguer ensuite par capillarité dans le monde rural les sociétés par cette nouvelle mobilité, précisément automobile. Et lorsque vous avez le dessin de Robida, qui est une illustration de Pierre Giffard, La fin du cheval, 1897, la caricature que vous avez en haut là-bas, et vous pourriez pointer, je pourrais pointer chacun des modes et des usages que l'on dit à venir, que l'on pressent à venir en 1897 quand même, jusqu'aux personnes à mobilité réduite, hein, les personnes handicapées motorisées. Les modes de livraison, etc. Et puis une forme de chaos général qui n'a jamais eu lieu parce que l'automobile a toujours été gouvernée. Le premier permis de conduire, c'est 1893, certificat de capacité, qui est généralisé à partir de 1897. Donc tout un ensemble institutionnel qui vient ancrer la pratique et qui vient l'organiser. Cette organisation, elle doit beaucoup, je viens de le dire, à l'Automobile Club de France, qui règne aussi sur un autre monde, le monde des courses. Et là, vous avez, en référence à l'héroïsme tout à l'heure que j'évoquais, un arc de triomphe parisien qui est un peu méconnu, et c'est un scandale, évidemment. Vous l'aurez compris, c'est l'arc de triomphe à Levasseur, Émile Levasseur, qui semble sortir de la pierre. Le monument date de 1907, et il commémore donc la course de 1895. On est 12 ans après. Mais en 1907, cet arc de triomphe qui il se trouve toujours, mais il est relégué, il est en mauvais état, il est ignoré, en vis-à-vis du vrai Arc de Triomphe. Eh bien, il est porte-maillot, dans un square. Il existe encore, mais il y a pire, si j'ose dire, dans l'insulte faite au passé automobile de la capitale. Il y a ce monument à Léon Serpollet, qui est un vaporiste, lui, voiture à vapeur, et qui présente un char assez improbable, à vapeur, une machine divine presque, et on retrouverait là le lyrisme de Paul Adam avec un public qui vient à lui. On est place Saint-Ferdinand dans le 17e arrondissement de Paris, et il est évident qu'il n'est pas question de restaurer quelque chose qui est finalement un hommage aux pionniers de l'automobilisme en région parisienne. Donc il y a quelques sites ainsi, avec le monument au Père Lachaise que j'ai évoqué tout à l'heure, le monument funéraire, qui évoque cela. Alors on se réfugie dans l'exhibition, l'exposition de grands ancêtres présumés, comme le Fardier de Cugnot, au Conservatoire National des Arts et Métiers, mais enfin bon, globalement c'est quelque chose qui n'est plus présenté. Et donc il y a là un chaînon manquant patrimonial, sur lequel, eh bien, à certains égards, avec d'autres, l'on s'active. Je pourrais évoquer le rôle de l'Automobile Club de France, toujours fondateur, dans la structuration à l'échelle internationale de ce monde de l'automobile, dans la structuration des premiers codes de circulation. Et les quatre premiers panneaux, ils sont définis à Paris par le premier congrès routier en 1908. Et les quatre premiers panneaux qui vont devenir universels, et donc vous avez là vraiment un épicentre, puisqu'à Paris se tiennent les premiers congrès internationaux de route, d'automobilisme. Et le mot, finalement, je l'emprunte à cette période, des débuts, d'automobilisme et de tourisme. Et donc, par ce point de départ, eh bien, émerge toute une sémiologie, tout un ensemble qui vient finalement ancrer La nouvelle vitesse dans un habitus, ce qui parlera aux sociologues évidemment, un habitus contemporain qui fait qu'en sortant d'ici, eh bien vous allez faire attention au passage clouté, ou pas, ou enfin il vaut mieux, et tâchez de respecter les signalisations. Et donc vous avez plein d'essais qui ont lieu dès la première décennie du XXe siècle. Et là, cette image rappelle le premier kiosque signal de signalisation à Paris. Ce kiosque signal invitait un agent de police à venir actionner un volant, et ce volant actionnait à la fois une sonnerie mais aussi un panneau. Et là on arrive à lire, je ne pense pas que ce soit très lisible chez vous, mais le mot halte, il y avait le mot passer. Bon, bref, on bricole autour des ancêtres des feux de signalisation. Mais j'attire votre attention que l'emplacement de ce feu, c'est le carrefour Montmartre sur les grands boulevards parisiens, et que ce carrefour avait, dès avant l'automobile, le surnom de carrefour des écrasés. Et c'est au carrefour des écrasés, donc en 1912, on teste, eh bien, ce nouveau mode de signalisation pour des voitures dont la vitesse, je ne reviendrai pas sur la slide de tout à l'heure, mais dont la vitesse a considérablement augmenté et par définition aussi fait augmenter la létalité et le danger. Sauf que, et il y a un moment où les courbes se croisent assez rapidement, le cheval demeure mortifère alors que l'automobile, tellement elle est crainte et tellement aussi on l'entend arriver, l'automobile exclut finalement le piéton. Alors que le cheval, il a l'air assez familier, mais en fait, il s'arrête bien moins bien qu'une automobile. Et il cause énormément d'accidents. D'où le fait que l'on meurt beaucoup plus sur les chaussées parisiennes à la Belle Époque que même au moment où l'automobilisme est triomphant à Paris. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, je reviens un instant sur tous les éléments de débat aussi, de controverse que suscitent les débuts de l'automobilisme, puisque des routes et des courses sont organisées sur route ouverte. Et là, vous avez le départ de la course Paris-Vienne, rue de Rivoli. Mais ces courses, en 1902, mais ces courses occasionnent aussi des accidents mortels. Et donc, vous avez aussi une frange, mais qui est très largement surestimée dans les archives. Une frange d'opposants, d'autophobes, qui vont venir s'exprimer, qui vont témoigner de fils tendus sur les chaussées en Bretagne, par exemple, et ailleurs. Mais ce qui importe, c'est au contraire la grande acceptation du phénomène automobile, et pas son refus. Ce qui importe, eh bien, c'est l'arrière-plan industriel que j'évoquais tout à l'heure, sur lequel je ne m'attarde plus désormais, mais il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup à l'automobile parce qu'elle donne beaucoup à la société. On la bénit. Et là, on est toujours dans le 15e arrondissement. Et vous voyez le contraste entre des publicités évidemment tentatrices, diaboliques, quasiment pour des marques automobiles. On voit assez bien le viol que l'automobilisme suggère de la réalité au sens propre, la tentation, etc. Mais l'Église donne sa bénédiction à ça. Et Michel Lagré, dans La bénédiction de Prométhée, parlait de la bénédiction du chemin de fer, moins de l'automobile. Mais cette fresque est parisienne. Savez-vous où elle se trouve? Elle est sur l'église Saint-Christophe de Javel, dans le 15e arrondissement. Et l'église Saint-Christophe de Javel, c'est la paroisse Citroën de Javel. Et donc vous avez là Saint-Christophe, patron des voyageurs, qui bénit un automobiliste. Et cette fresque est visible. Alors, rue de la Convention, il y a un Saint-Christophe qui bénit un aéroplaniste. On n'est pas très loin du premier aéodrome au monde, qui est celui d'Issy-les-Moulineaux, juste à proximité, et donc aussi des usines de Javel. Bref, une acceptation sociale générale, une acceptation qui passe donc, je viens de l'expliquer, par aussi la conquête de l'espace public. Eugène Hénard va être le premier à faire une carte que les géographes, eh bien aujourd'hui, pourraient affiner, bien sûr, et elle l'est, par l'atelier parisien d'urbanisme et ailleurs, une carte des flux, des trafics, en qualifiant, en caractérisant ces flux et ces trafics. Et puis là, on va rentrer, donc je dirais que on va rentrer dans une autre époque de l'automobilisme. Mais la thèse que je défends, c'est que la partie est jouée dès avant la Première Guerre mondiale. Et dès avant la Première Guerre mondiale, le tournant automobilistique de la société est acquis dans l'espace public, dans les pratiques et aussi dans les esprits. Alors, désormais, la question devient technocratique. Et la question qui devient technocratique m'intéresse tout autant et m'intéresserait plus, et je pourrais bien plus la développer que je ne vais le faire là, parce que chaque période justifierait une mise en abîme. Mais chaque période, finalement, va accentuer la place de l'automobile. Et lorsqu'en 1913, la préfecture de la Seine réfléchit aux conditions d'extension de Paris, et les premières lois d'urbanisme adoptées au Parlement vont dater d'après la Première Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale va jouer le rôle de retardateur, finalement, d'une fatalité qui est en cours. Et donc ces lois d'urbanisme vont mettre en application ce qui est défini avant. Donc la préfecture de la Seine s'intéresse, dans des considérations préliminaires, à ce qui touche aux considérations techniques et à la circulation. Et donc la circulation, bah, c'est aussi la circulation à l'intérieur de ce que l'on appelle déjà le Grand Paris, puis qu'on va perdre de vue pendant une quarantaine d'années, puis qui a ressurgi, notamment depuis le district de la région de Paris, en 1960. Mais bon, on va poser les conditions d'extension. Et les conditions d'extension, ce sont celles de la mobilité et des axes de circulation, à la fois ferrés, mais aussi routiers. Et donc, dans diverses publications, dont l'écho n'est pas négligeable, mais une vraie amnésie les frappe, hein. Dans diverses publications, on va revenir là-dessus. Et parmi ces publications, un ouvrage intitulé « L'avenir de Paris » d'Albert Guérard, qui parlait déjà de la charte, vous le voyez, non pas du Grand Paris, mais du plus Grand Paris. Du plus Grand Paris, avec toutes les tensions, hein, qui sont évoquées. Et je l'aime beaucoup parce que l'horizon américain est très présent. Je vous rappelle qu'on parlait du tramway comme de l'américain à l'époque, dans les années 1890-1890, mais que l'on voyait là un urbanisme un peu froid, géométrique, etc. Et donc Albert Guérard, qui connaît les États-Unis d'Amérique puisqu'il est professeur à Stanford de littérature française, eh bien cherche à appliquer à Paris, à l'urbanisme français qui n'existe pas beaucoup à son époque, eh bien cherche à appliquer des solutions américaines, mais avec aussi la méfiance vis-à-vis de la société américaine, etc., etc. Et donc il évoque le fait que la beauté de Paris est en danger. Et évidemment, l'automobile, par la forme de taylorisation de l'espace qu'elle implique, au même titre que les chemins de fer, eh bien, met en danger cette beauté. Mais la circulation est très présente, et surtout, comme préoccupation d'Albert Guérard, il y a la préoccupation industrielle. Il faut maintenir à Paris une activité industrielle très forte dans cette ville qui, il faut le rappeler quand même, vit aux deux tiers d'une population d'ouvriers. Et cette dimension-là, elle n'est pas négligeable. Alors, je ne détaille pas la table des matières, mais le livre, je l'ai réédité aux éditions L'Armatan dans la collection Les Introuvables. C'est bien qu'il était devenu introuvable. Et on ne s'en souvenait plus, et pourtant, il développait des principes qui sont mis en application après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, la départementalisation, finalement, va réinvestir nombre de projets oubliés sans suite de l'entre-deux-guerres. Les villes contemporaines, les villes modernes, la ville parcourue d'autostrades, le plan voisin de Gabriel Voisin, constructeur d'automobiles, mais le plan voisin de Le Corbusier, avec ce tracé si caractéristique qui, évidemment, bouleversait la rive droite de Paris. Il ne touchait pas à l'île de la Cité ni à l'île Saint-Louis, mais alors sur la rive droite, s'en donnait à cœur joie, il construisait des grands ensembles, des unités d'habitation conformes et autres. Bref, il visait à faciliter la circulation. La carte en bas, c'est la carte d'un urbanisme souterrain un peu utopique, d'un groupe de recherche, le groupe du Tudjian. Et puis, ce que vous trouvez à droite n'est pas sans écho avec ce que j'ai montré tout à l'heure des ponts et chaussées appliqués au chemin de fer, c'est-à-dire une mise en paysage d'un paysage qui n'est plus ferroviaire désormais, mais routier. Et cette mise en paysage du paysage routier, bien dans la tradition américaine, des highways, des parkways, des scenic highways aujourd'hui, qui font l'objet d'une patrimonialisation à part, eh bien c'est le triangle de Reconcours. Et évidemment, comme tous les projets d'architecte, la maquette est plus belle que la réalisation. Et lorsqu'on est pris dans l'embouteillage de week-end sur l'autoroute A13 ou d'heures de pointe le soir, eh bien on n'y est pas très sensible forcément. Mais on n'y est pas très sensible non plus parce que un point important qui devait être construit n'a pas été construit. C'est-à-dire qu'on envisageait de construire un vrai phare, au sens marin du terme, au sens maritime du terme, un phare qui aurait éclairé, qui aurait donné une cohérence au réseau routier sur place et puis qui aurait été visible de loin. Et puis des abords un peu soignés, etc. On en est loin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toute civilisation routière n'est pas nécessairement laide. Il y a une cinétique de la vitesse qui a été travaillée plus ou moins et que l'on peut chercher éventuellement à réinvestir. Et avant de déconsidérer un ouvrage routier, peut-être faudrait-il envisager, étant donné l'héritage patrimonial qui fait qu'il est là, l'ouvrage, et qu'il sert de surcroît, peut-être faudrait-il réfléchir à l'optimiser. Enfin, c'est une réflexion qui touche beaucoup
de ces infrastructures construites un peu violemment dans la tradition d'Art French après la Seconde Guerre mondiale, du béton à tout crin évidemment et du béton sur les routes, et qui vont finalement détendre les ressorts avec la croissance économique, la croissance des Trente Glorieuses, celle que je décris dans l'ouvrage sur l'automobile au temps des Trente Glorieuses. Eh bien, tout ce qui était dans les tuyaux, qui avait été maintenu, déconsidéré par la crise économique, qui avait été retardé, qui avait été à certains égards méprisé également, puis on disait qu'on n'en avait pas besoin, de toute façon on avait le plus beau réseau routier du monde, donc on n'avait pas besoin d'autoroute, ce qui est à certains égards exact. Eh bien, tout ceci se détend au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est l'âge d'or à cette période-là qui nous permet d'entrer dans la phase de démocratisation de l'objet automobile. Et là, l'automobilisme connaît une autre histoire, peut-être moins méconnue que l'histoire des premiers temps. Enfin, quand même, cette histoire, c'est celle de l'accession aux marqueurs de modernité. Pas du tout désenchantés. Et le point de départ que j'ai suggéré, là, avec la capacité d'effraction que permet l'automobile, de libération des assignations individuelles que permet l'automobile, eh bien, de plus en plus de Français, mais également de citoyens occidentaux, sont en mesure d'y accéder. Et ce n'est pas rien que d'accéder à une 4 chevaux. Ce n'est pas rien que d'accéder à une 2 chevaux. Et dans le bonheur familial, l'image du bonheur familial du week-end, photographié par Doineau, du pique-nique, etc., de l'accès à la mer. Enfin, c'est bien ce que dit Proust, quoi. Pouvoir fuir à la mer. Bon, ben, peut-être que ceci nous rend blasés aujourd'hui, mais pas à l'époque. Les classes moyennes et les classes, y compris ouvrières, qui sont les plus massives à se motoriser au cours des années 58-68. Et donc vous avez là l'automobile qui devient un fétiche moderne, mais aussi une réalité moderne, l'automobile diffusée. Alors évidemment avec des pressions urbaines, et pour ne retenir que le cas de Paris, des pressions urbaines qui vont considérablement changer le paysage, qui vont accentuer non pas tellement une reconfiguration des centres-villes, certains centres-villes sont déjà éventuellement adaptés, c'est le cas de Paris, mais la pression, elle est plus rue de Verneuil. La pression, elle est à Arcueil. Hein. Elle est dans la périphérie, 10 ans après. Et donc, on voit bien, 15 ans après. Et donc, on voit bien que c'est une échelle désormais métropolitaine qu'il s'agit de considérer. Et ce n'est plus simplement, eh bien, les traditionnels embarras de Paris. On passe d'embarras localisés à une congestion généralisée. Et c'est véritablement cela, le saut qualitatif de cette période, avec un équilibre démographique qui est radicalement inversé, c'est-à-dire que la banlieue devient presque plus dense que le centre-ville. Et donc vous avez là des équilibres démographiques qui vont emporter le sens de cette civilisation automobile, qui vont emporter aussi, eh bien, les grands arbitrages d'État. C'est-à-dire que ces grands arbitrages d'État en matière de mobilité et de transport continuent, hein, d'être plus massifs en termes de transport public, en termes de transport individuel, mais la route va faire son grand rattrapage à cette période. Et ce grand rattrapage, bah, ce sont des grandes infrastructures. Alors, on la voit là, hein, c'est le boulevard périphérique qui se complète, qui n'est pas encore complété en 69, il ne l'est qu'en 1973. Mais le boulevard périphérique parisien mérite la visite du général de Gaulle en 1966. On est le 11 mai 66, cette photo est extraordinaire. Très rarement, de Gaulle est présenté avec ses lunettes. Mais là, le photographe, et c'est une photographie privée que j'avais retrouvée, le photographe l'a saisie et de Gaulle est subjugué par l'échangeur de la Chapelle, qui est ici, hein. L'échangeur de la Chapelle qui est le plus grand d'Europe. Et finalement, c'est un grand projet, pas moins significatif que le projet télécommunication d'équipement nucléaire ou du France ou de l'aviation à l'époque qui va mener au Concorde. Bref, c'est un grand projet d'équipement de la grandeur gaullienne puis pompidolienne. Et Pompidou va finalement hériter d'une période à laquelle on le réduit bien souvent. De plus, l'ouverture, elle est mondiale. J'ai suggéré Orly, on pourrait parler plus tard de Roissy. Mais c'est quand même Orly qui fait le plus de chiffres de fréquentation le week-end, les terrasses d'Orly, dans les années 60, où on va admirer les avions s'envoler. Donc un rapport à la modernité qui est désormais celui des dimensions de l'avenir, celui que Paul de Louvrier et toute la technocratie, donc je m'y attarde pas, je l'ai écrit bien ailleurs, mais enfin, on change le rapport à la ville, à l'urbanité, on change le rapport, eh bien, à tout ce qui est aménagement urbain. Georges Pompidou, c'est à l'acmé de ce phénomène qu'il préside, et on oublie un peu la dimension qui fait que Georges Pompidou connaissait Marcel Proust, hein. citait Paul Éluard, enfin bon bref, n'était pas totalement le bétonneur qui est très souvent décrit. Et donc cette logique pompidolienne de l'aménagement de la région parisienne, on la retrouve aussi dans les autres modes, car c'est la même génération qui dote la région parisienne d'infrastructures de voirie primaires très puissantes, mais qui dote la région d'infrastructures de voirie de transport public très puissantes. Et donc le RER est inauguré à plusieurs reprises par les présidents de la République, la Pompidou et Giscard d'Estaing, qui évidemment équipent une région, alors avec les préfectures qui vont bien pour accompagner la décentralisation administrative à cette période. Les connexions, les voici, je ne m'attarde pas parce que je parle plus d'automobilisme, mais enfin, c'est concomitant. Et il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu de tout automobile. La massivité des investissements, elle suscite finalement une forme de consentement des populations, et une infrastructure routière n'est jamais résumable à son simple tissu de voirie et de béton. Je veux dire par là que le boulevard périphérique parisien, dont finalement je suis devenu un spécialiste, témoigne d'une insertion urbaine beaucoup plus fine que ce à quoi on le résume d'habitude. Et là, j'en veux beaucoup à la grande figure qui est Jacques Le Goff, qui avait dit, médiéviste, qu'il a s'est mêlé de quelque chose qu'il ne regardait pas. Il dit, le boulevard périphérique, c'est la nouvelle muraille à l'image de la ville médiévale de Paris. Mais pas du tout. Le boulevard périphérique, c'est l'endroit le plus poreux de Paris. C'est l'endroit qui, véritablement, a consacré la démocratisation de la ville. Il n'y a jamais eu autant de portes à la capitale que du temps du boulevard périphérique et de son corridor immédiat. Et donc c'est l'ensemble qu'il s'agit de considérer, c'est-à-dire toutes les bretelles, toutes les voies de dégagement qui l'ont accompagné. Alors que le traitement de l'urbanité au ras du réseau soit médiocre, qu'il y ait peu de place pour les piétons, c'est une évidence, mais que l'on puisse également le reconfigurer, c'est aussi une évidence. Et il y a quelques portes aujourd'hui qui en témoignent, qui ont été radicalement urbanisées. Et donc il a manqué à l'automobile à cette période d'être véritablement considéré comme un objet d'histoire urbaine. Et on l'a vu comme un objet technique, comme une intruse, ce qu'elle n'est pas. Vous avez bien compris, parce qu'il y a une légitimité laborieuse, il y a une légitimité culturelle dont l'automobile dispose. Alors les grands réseaux, je n'y reviens pas. La modernité parisienne, alors cette vue simplement pour évoquer l'idée d'une modernité complète, que cette génération extrêmement enthousiaste vis-à-vis du progrès demeurait, enfin, conservait chevillée au corps. Lorsque l'on conçoit l'autoroute du Nord, lorsque l'on va desservir la Roissy notamment, puis Lille et autres, donc dans les années 62 pour le début et 70 pour la fin, on conçoit l'aménagement des portes de Paris. Et donc Aéroport de Paris se mêle de l'aménagement de la porte de Bagnolet et se mêle de l'implantation d'un héliport porte de Bagnolet. Et donc il s'agit d'utiliser une emprise pour finalement développer un moyen de transport. En termes de pollution, ça n'est pas d'actualité, c'est totalement anachronique de raisonner ainsi, pollution sonore ou pollution par particules. Bref, cette logique fait que la ville doit être modernisée à tout craint. Sauf que Porte de Bagnolet est aussi envisagée dans l'emboîtement des financements, un financement pour une maison de la culture. Et donc là se fait sentir tout l'héritage de Malraux. Et donc on a l'idée un peu idéale, certes parce qu'elle n'a jamais été réalisée, il n'y a jamais eu les sous pour, mais on a l'idée un peu idéale de faire une vraie ville, avec une urbanité, avec une épaisseur culturelle, pas qu'un objet technique à cet endroit. Et donc vous voyez là l'emboîtement des... Donc maison de la culture, héliport, hub de transport, pour parler de façon contemporaine, différents financements, multimodalités, tout était présent déjà, mais tout n'a pas été réalisé, et le traitement, effectivement, il faut en convenir, est parfois assez médiocre. Il a été violent, ce traitement, je passe très vite. Mais évidemment, là où il n'y avait rien ou pas grand-chose, eh bien les expropriations ont eu lieu, et le boulevard périphérique, c'était simple de le faire, c'était la zone non édificandie. Mais l'autoroute du Nord à Saint-Denis, hein, le tunnel du Lundi qui aujourd'hui est recouvert quasiment sur la totalité, eh bien il traverse les banlieues. Donc là, il y a une forme de violence. Mais je dirais que le discours, il est un peu différent par ailleurs. Et je reviens à mes bords de Seine, sur lesquels je conclurai dans un instant. La ville a-t-elle été défigurée ou a-t-elle été reconfigurée sous l'impact et l'influence de la modernité automobile? J'ai rappelé ce qui me semble être des légitimités dont on fait fi un peu allègrement et parfois avec désinvolture aujourd'hui, c'est-à-dire toute l'histoire sociale, culturelle,
artistique de l'objet automobile, patrimonial. Bon, à bien y réfléchir, ce que l'on a construit, par exemple au droit de la Tour Eiffel, ou sur les quais de Seine, est-ce si lamentable ? Véritablement, je le conteste. Je veux dire par là que cela offrait aussi sur la ville une lecture cinétique du paysage. On pouvait traverser de fait Paris en un quart d'heure sur la rive droite. L'idée qu'un tout automobile technocratique ait pu exister dans la pensée des ingénieurs est une évidence. Mais on n'en est jamais arrivé là. On n'en est jamais arrivé là. Je vous ai rappelé les grands équilibres avec les transports publics et les transports en commun, d'une part. D'autre part, les grands projets, certains grands projets parfois violents contre l'espace public. Hein, aurait-on toléré cela devant le Lutetia, un viaduc, hein. Aurait-on toléré véritablement, même si c'était très avancé, la couverture du canal Saint-Martin? Aurait-on toléré des voies express tous azimuts dans la capitale? Certes pas. Aurait-on toléré ce qui est présenté par Michelin sans une once de second degré, hein? En 1965, il s'agit d'exalter le pneu Michelin X radial, qui est évidemment plus performant que celui de 1964. Mais en 1965, le Paris de l'an 2000, dans lequel on se projette volontiers, hein, celui de Paul de Louvrier, ce Paris de l'an 2000 qui est susceptible de créer du plaisir, bah, c'est le Paris de la défense. On aperçoit le CNIT, hein, on aperçoit l'urbanité zéro. Évidemment, c'est très contestable. On aperçoit des automobiles. Alors pour ceux que l'histoire automobile retient un peu, ça c'est une voiture nucléaire, c'est la Ford Nucléon. Un petit rapport à la modernité là qui en dit long sur les espoirs de l'époque, hein, qui consacre l'atomium comme le symbole de l'exposition universelle à Bruxelles par exemple. Donc le tout craint, la lubris et l'ébriété énergétique sont évidemment aussi présentes derrière le projet d'aérotrain dont je rappelle qu'il s'agissait de construire finalement une infrastructure destinée à 100 personnes qui était en mode magnétique à hauteur des habitations en banlieue parisienne et qui faisait le bruit d'un avion supersonique. Bon, et on y a cru sérieusement. C'est ce qui a permis d'ailleurs au réseau TGV et au système TGV de se développer à la SNCF qui se jugeait challengé là sur la vitesse sur rail, même si l'aérotrain n'était pas réellement cela. Bon, cette carte est assez intéressante parce que c'est quasiment à peu de choses près la carte du Grand Paris Express contemporain et du métro que l'on envisage. Alors, il va sans dire que cette époque que je viens de vous décrire est révolue, enterrée, contesté, d'abord en 68, la rue Gay-Lussac que je n'ai pas connue moi, mais bon, que d'autres ont connue évidemment, la grande déstabilisation de la société de consommation occidentale, les motifs de l'écologie politique, les motifs de la patrimonialisation et de la gentrification des centres-villes, et donc d'une sociologie urbaine qui change radicalement. Et j'avais eu des conversations, on en parlait avec Louis Chevalier à ce sujet, sur l'irruption de la bagnole dans la ville, qu'il contestait évidemment, mais il n'était pas convaincu des bienfaits d'une société qui exaltait la gentrification à tout craint. Donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais évidemment la contestation, elle est contemporaine du fait que on envisage et on aspire à une autre ville. On aspire à une ville où les réseaux sont régulés, les réseaux sont rendus plus efficaces, les raisons sont surveillées. C'est une autre histoire là des données urbaines qui commencent à être écrites. On est à l'aube de la ville dite intelligente, mais enfin j'espère que vous aurez mesuré à quel point l'ancienne ville n'était pas forcément bête. Et donc de ce point de vue-là, la simple collection de données, parce que c'est ça, c'est l'intelligence au sens de données, la simple collection ne fait pas véritablement l'urbanité non plus. Cette urbanité, elle passe peut-être par des résiliences, parfois à peu de frais. C'est le cas des portes de Paris. C'est le cas d'une reconsidération, d'une requalification de l'espace du boulevard périphérique qu'il s'agit de suturer désormais au tissu ancien urbain. Et de ce point de vue-là, je prendrai à certains égards, et je le fais publiquement, et ce qui se dit à Caen se répète et s'écrit à Paris, hein, mais je le fais à bien des égards, à l'encontre d'une forme de ludocratie contemporaine qui vise à consacrer ce que j'appelle une cosmétique de centre-ville, c'est-à-dire à transformer des quais qui servaient, encore une fois, dans des espaces végétalisés à bon compte, enfin, c'est cher quand même, hein, faut le redire. Et puis on crée des embouteillages différents, c'est-à-dire qu'on accumule des conteneurs publicitaires là où circulaient peut-être des poubelles, mais enfin qui permettaient à 40 000 personnes de circuler. Cette photo-là est un hommage, hein. Lorsque je travaille à la Mazarine et à l'Institut, je traverse le pont, et évidemment je vois les quais de Seine, rive droite, et là vous avez le pêcheur officiel de la Société halieutique de Paris, qui bénéficie de la désertion des automobiles sur la rive droite et qui vient poser ses cannes. On les aperçoit là. C'est le plus beau métier du monde. Et donc cette personne, bah oui, c'est un autre usage de la ville qui se dessine. Mais cet autre usage de la ville, j'attire votre attention quand même sur le fait que il est peut-être contestable, eu égard aux critères qui sont parfois donnés pour le favoriser, c'est-à-dire la patrimonialisation, l'UNESCO, les grands mots, ok. Enfin, est-ce que l'UNESCO s'accommode du bruit que crée la douche sonore sur les bords de Seine? Je vous invite à aller la voir, hein, parce que c'est quand même des éléments étonnants. Avec votre iPhone, vous pouvez déclencher la musique fort, bien comme ce que le contemporain exige. Vous pouvez également jouer, vous pouvez aller faire votre marché bio. Enfin, des choses quand même un peu perturbantes, eu égard à ce que l'on cherche à valoriser. C'est-à-dire, je cherche l'histoire, là, hein, personnellement. Mais peut-être est-ce que je comprends mal les choses. Enfin bon, toujours est-il que je donne des éléments de discussion sur le fait que l'automobile n'est pas cette intruse dans la ville que l'on veut parfois nous décrire. Et donc l'automobiliste conserve des intérêts, alors des avantages, des atouts, ça reste à voir, des inconvénients, elle en a, et je ne les néglige pas, je m'en fais l'historien avant d'autres. Il y a des éléments là que je nommais pas, mais qu'il ne s'agit pas d'hypostasier au point de dire que voilà, il résumerait tout. Non, l'automobilisme, je vous renvoie à Proust et à d'autres, c'est autre chose. Et donc il y a des éléments patrimoniaux, il y a des éléments qui font que derrière l'automobilisme se joue, et j'ose la formule, une part de l'humanisme et une part aussi de l'universalisme. Et ces deux dimensions-là ajoutent à une forme de liberté qui n'a rien à envier à l'humain augmenté que l'on nous promet parfois. Voilà, je crois, peut-être, je vais m'arrêter là. Merci à vous.